Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marqué. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Nathan.
Moi, je suis Nathan, j'habite à Nantes, j'ai 26 ans. Je suis bouddhiste dans le courant Theravada.
Je le connaissais à peine lorsque je lui ai proposé de venir à Nantes l'enregistrer pour De Bonne Foi.
Le TGV numéro 5488 à destination de Nantes va partir.
En le rencontrant, malgré la chaleur écrasante de ce week-end d'août, j'ai tout de suite été touchée par la douceur qu'il dégageait.
J'ai toujours été quelqu'un qui se posait beaucoup de questions.
Avec Nathan, on a parlé du parcours qui l'a amené à devenir bouddhiste et de l'impact que ça a dans sa vie. Bonne écoute. C'était quoi, toi, ton éducation religieuse à la base? Tu pars de quoi, de ce côté-là?
Je suis français, d'origine française, et évidemment, il y a un côté, il y a un background un peu catholique, mais finalement qui était très 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 peu présent à la maison. Mes parents étaient expatriés, du coup on a vécu dans pas mal de pays, avec des religions d'ailleurs très différentes, donc ça aurait pu être un sujet très abordé. Et pas du tout, non. J'ai été simplement baptisé tard, à l'âge de, je crois, 5 ou 6 ans. Et quand j'ai demandé plus tard à ma mère, mais pourquoi tu m'as baptisé? Parce qu'au final, ça n'a pas l'air très important pour vous. Et puis, on n'a même pas fait de catéchisme. Hein, c'est pas, je trouvais pas ça très cohérent. Et elle m'a répondu, c'est vraiment pour le mariage. Parce que si tu veux te marier avec quelqu'un et que pour elle, c'est important que vous mariez à l'église, et si t'es baptisé, ce serait quand même plus pratique. Ça s'arrêtait là, quoi, j'ai l'impression.
Et comment ça a commencé alors ta quête, ta recherche spirituelle, religieuse?
Alors ça a commencé au lycée. Ouais, ça a commencé en première où j'ai vraiment commencé à me poser des questions, notamment avec des rencontres. J'habitais en Espagne à ce moment-là et il y avait deux filles dans ma classe avec qui je m'entendais très bien, qui étaient musulmanes. Oui, il y en a une des deux qui portait le voile. Et en Espagne, ça devait être possible de le porter à l'école, j'imagine. On a dû parler de ça au début, et puis ça nous a lancé sur le sujet de l'islam, de la religion. Et du coup, j'étais avec ces deux filles-là, et elles m'ont un peu raconté qu'est-ce que c'est que l'islam, bien sûr, c'est des choses un peu générales, mais aussi qu'est-ce que c'est pour elles, précisément. Qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'elles pratiquent, elles, précisément, tout ça. Et c'est vrai que ça m'avait vachement touché, j'avais trouvé ça parlant. Je m'étais intéressé à l'islam à ce moment-là. J'avais même emprunté un Coran, je me rappelle, à la bibliothèque, enfin au CDI. Et finalement, c'était une rencontre qui avait été très touchante, mais c'était pas aller plus loin que ça finalement. Je me suis un petit peu intéressé à l'islam, mais je m'en suis rendu compte que ça me parlait pas finalement plus que ça. J'avais lu plusieurs sourates, je m'étais un peu renseigné, et globalement, non, ça me parlait pas plus que ça finalement. Et c'est en terminale que j'ai recommencé à me poser des questions, notamment grâce à cause des cours de philosophie, que j'étais en filière L, donc on avait beaucoup de cours de philo. On se posait beaucoup de questions sur la vie, sur la société, sur plein de choses, quoi. Entre autres, la religion, ça faisait partie des thèmes abordés. Du coup, ça aussi, ça m'a un petit peu relancé sur ce sujet-là, me poser des questions. J'ai toujours été quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Pendant un moment, je me suis dit, peut-être que la philosophie, c'est une piste vraiment intéressante pour donner... J'aime pas l'expression « donner du sens à sa vie », parce que j'ai l'impression que c'est... Il faut donner un sens à la vie, même si c'est n'importe quoi. Non, mais trouver du sens, trouver... une logique, voilà, et pas juste quelque chose de purement matériel où on grandit, on va à l'école, on se fait des petits bonheurs, puis voilà, puis on grandit, on vieillit, on meurt. Ça me paraissait tellement absurde. Déjà en terminale, j'avais vraiment la conviction profonde, vraiment un sentiment au fond de moi où j'étais sûr que la vie, ça pouvait pas être que ça. Que ce petit train-train comme ça où on se fait des petits plaisirs, on mange des glaces et on regarde la télé, et puis voilà, la vie, c'est ça. Non. J'avais vraiment le sentiment profond qu'il y avait autre chose, qu'il y avait un sens plus profond, mais je ne savais pas quoi. Vraiment, je ne savais pas du tout. Je pensais que la philosophie allait pouvoir m'apporter quelque chose, et finalement, pas tant que ça. Il y avait des choses très intéressantes, des choses qui m'ont nourri et tout. Mais je trouve que c'était trop théorique. C'était beaucoup on pense, mais pas beaucoup de pratiques, pas beaucoup de rencontres. Après, à l'université, donc je devais avoir dans les 20 ans à peu près, à peine, un peu moins. Là, je me suis vraiment posé des questions sur la Bible aussi, sur les chrétiens, sur les juifs. Enfin, j'essayais de voir qu'est-ce qu'ils avaient à proposer, comment ils expliquaient les choses, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter, est-ce que ça résonnait en moi. J'avais emprunté la Bible, j'avais lu des passages de la Bible. Et effectivement, j'avais trouvé ça super bien, super intéressant, super inspirant. Mais il y avait quand même plusieurs choses qui faisaient que je m'y retrouvais pas totalement. Il y avait quand même certains points importants, fondamentaux, où je m'y retrouvais pas pleinement, notamment l'existence de Dieu. Je suis pas sûr que Dieu n'existe pas, je m'en sers pas comme athée, mais je crois pas spécialement en Dieu pour autant. Mais il y avait plein de choses que je trouvais pas logiques. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Pourquoi il nous laisse pas tranquille? Si c'est lui qui nous a créé, pourquoi est-ce qu'il nous a créé? Ça me paraissait pas cohérent, je me disais pourquoi est-ce qu'il nous fait vivre tout ça? Il aurait pu ne pas nous faire exister tout court, on aurait été tranquille. Enfin, surtout s'il est omniscient. Il sait ce qu'on va faire à l'avance. Donc du coup, pourquoi il nous fait tester? Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui me paraissaient pas cohérentes par rapport à l'histoire des choses horribles qui sont arrivées, des guerres terribles. Des passages de la Bible aussi que je trouvais très bizarres. Notamment dans l'Ancien Testament, je trouve qu'il y a beaucoup de passages où Dieu est assez humain. Il a des réactions comme de quelqu'un qui s'énerverait ou quelqu'un qui est un peu jaloux envers son peuple. Et je trouve que c'était une réaction trop humaine pour être divine. Enfin, je sais pas, il y a plein de petites choses comme ça qui me parlaient pas. Et au final, j'ai pas continué cette voie-là. Le bouddhisme, en fait, j'ai découvert très tôt. J'ai découvert quand j'habitais à Taïwan parce que, comme je disais, mes parents étaient expatriés. Et on a habité 2 ans et demi à Taïwan. Mais la période où vraiment je me suis intéressé moi-même au bouddhisme de manière un peu plus sérieuse, et pas juste par imprégnation, c'était donc à cette époque-là, à l'université, vers mes 19 ans, 19, 20 ans. Là, vraiment, j'ai vraiment senti une grande résonance, et plein de choses qui me parlaient énormément. J'avais vraiment le sentiment d'avoir trouvé ce qu'il me fallait. J'étais vraiment dans une période où je sentais qu'il y avait, comme je te disais, quelque chose de plus dans la vie. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il existe? Et j'ai déjà vu la philosophie, j'ai creusé un peu de ce côté-là, ça me parlait moyennement. Comme tu disais, christianisme, judaïsme, islam. Le bouddhisme, quatrième plus grande religion du monde, donc je me suis dit, voyons. Et là, ça m'a beaucoup parlé, avec des lectures, donc j'ai emprunté des livres à la bibliothèque. Après, j'ai rencontré des gens par la suite, mais au début, c'est vraiment commencé par des lectures. Il y avait aussi, des sites internet qui sont parfois très bien faits, où on peut apprendre des choses aussi. Et donc ça a commencé comme ça. Ça résonnait beaucoup en moi. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le bouddhisme, contrairement aux religions abrahamiques, les 3 grandes religions du livre, c'est vraiment une religion qui est très différente de ce qu'on connaît, avec des concepts, une manière d'envisager l'existence, d'envisager les relations humaines, de tout envisager, qui est quand même très différente. C'est vraiment un choc culturel énorme. Quand t'as 19 ans et que t'es français d'origine française, comme je disais, ça fait quand même un choc culturel énorme et c'est dur à comprendre. En fait, il y a tout à revoir, il y a tout à comprendre. Même les choses les plus basiques, elles sont pas évidentes pour nous. Un truc hyper basique pour des gens qui sont thaïlandais, par exemple, ou birmans, c'est la renaissance. C'est quelque chose qui est assez étranger pour nous. Alors parfois, on appelle ça la réincarnation dans le langage courant, mais c'est pas le bon terme, en fait. Parce que quand on parle de réincarnation, normalement, il y a le terme carne. La carne, c'est la viande, c'est la chair. Et donc, quand on se réincarne, normalement, on pense à un esprit ou l'âme, si on fait la différence, qui va passer d'un corps à un autre. Et ça, le Bouddha, il a très clairement dit que c'était un point de vue erroné. Il a très clairement enseigné que c'est pas ça qu'il voulait faire passer comme message. Tout comme les points de vue nihilistes, où quand on meurt, on meurt. Il n'y a plus rien, c'est fini. Ça non plus, il enseignait pas ça. Il enseignait quelque chose qui était entre les deux, c'était la renaissance. Il y a quelque chose qui renaît, mais il n'y a pas pour autant vraiment quelque chose qui renaît. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas quelque chose de permanent. Il n'y a pas de en soi, il n'y a pas d'âme ou d'esprit qui se conserve de fil en aiguille. Si on parle de renaissance, c'est vraiment très compliqué, mais c'est pas la réincarnation. Ça poserait trop le problème d'avoir quelque chose de stable, comme un esprit. Donc du coup, je m'y suis beaucoup intéressé. J'habitais à Caen à ce moment-là. J'ai contacté des bouddhistes locaux. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était vraiment très compliqué parce que il y a plusieurs courants dans le bouddhisme. Alors déjà, c'est déjà une religion qui est très exotique, où il y a beaucoup de concepts nouveaux et différents. Et en plus de ça, deuxième difficulté, il y a des courants différents, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres entre eux. Donc ça faisait vraiment une double difficulté. Ce qui a fait que finalement, bien que ça m'ait beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup parlé, au bout de quelques mois, je me suis dit non. Oui, ça me parle beaucoup, je pense que je me rapproche de quelque chose qui me parle de plus en plus, mais finalement non. Donc j'ai repoussé le bouddhisme, entre guillemets, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Et il a fallu attendre encore bien 2 ans pour que j'y retourne, que j'y revienne. Et là, par contre, après, j'ai pu lâcher la chose. Je me rappelle pas exactement pourquoi je suis revenu au bouddhisme. Ah si, ça y est, ça revient. Je viens de me rappeler. C'est vraiment une petite coïncidence de rien du tout. Ouais. Je suis revenu l'été chez mes parents et ma mère avait acheté un livre. C'était Le bouddhisme pour les nuls, tout simplement. C'était son petit livre de chevet. Je pense pas qu'elle l'ait beaucoup lu pourtant, mais elle l'avait acheté en tout cas. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter pour le lire un petit peu. Elle m'a dit, bah oui, bien sûr, vas-y. Et c'est de ça que c'est reparti. Même si j'avais fini par me dire non, le bouddhisme c'est pas ça, ça m'avait quand même beaucoup marqué. C'est vraiment, j'avais beaucoup creusé le bouddhisme plus que les autres religions, plus que la philosophie. J'avais quand même trouvé beaucoup de choses qui me plaisaient. Donc, même si j'étais parti, que je m'étais dit non, ça avait quand même laissé une trace en moi. Et du coup, quand j'ai revu ce bouquin, je me suis dit, oh, c'est peut-être l'occasion de peut-être de relire, de voir les choses sous un autre angle. J'ai vieilli entre-temps, j'avais gagné en maturité. Et finalement, ce livre n'était pas si mal que ça. Et d'ailleurs, j'ai entendu pas mal de fois des bouddhistes conseiller à des occidentaux de commencer le bouddhisme comme ça, c'est-à-dire commencer avec un ouvrage très général. Et donc ce bouquin, il avait l'avantage, voilà, d'avoir un côté un peu historique, qu'est-ce que c'est que le bouddhisme, un côté un peu sociétal, un côté objectif avec des données, apprendre les grands concepts et tout, qu'est-ce que c'est la philosophie bouddhiste dans les grandes lignes, ce qui regroupe tous les courants. Et puis après, ils expliquaient justement qu'il existait différents courants et qu'est-ce que c'était que les différences entre ces différents courants. Ça, c'était vraiment parlant, ouais. Puis après, du coup, une fois que j'ai compris quel courant me parlait plus, ça a été beaucoup plus simple parce qu'après, on creuse dans le courant en question. Il y a beaucoup moins de contradictions. Et c'était plus facile à partir de ce moment-là.
Est-ce que pour l'acte de conversion, il y a un truc particulier? Comment ça se passe quand tu te convertis au bouddhisme?
Dans le Theravada, en tout cas, voilà, on considère très souvent qu'un bouddhiste est bouddhiste à partir du moment où il pratique le bouddhisme. Après, il y en a aussi certains qui disent, et je trouve que ça a quand même pas mal de sens, que on est aussi bouddhiste à partir du moment où on prend les 3 refuges. C'est tout simple, hein, c'est une petite récitation qu'on fait assez régulièrement. On réaffirme sa foi. C'est ce qui ressemblerait le plus un peu à une conversion, un peu, enfin un moment où on dit bon bah voilà, je suis bouddhiste. Sauf que la différence, c'est on le réexprime très très souvent parce que tout est impermanent. C'est 3 phrases du coup qu'on répète 3 fois. Soit on les fait en français, soit on les fait dans la langue des textes, le pali, qui ressemble au sanskrit. Et ça consiste à dire je vais vers le Bouddha comme vers un refuge, je vais vers le Dhamma comme vers un refuge, je vais vers le Sangha comme vers un refuge. Et ensuite on fait pour la deuxième fois, blablabla, pour la troisième fois, blablabla. Donc là, j'utilise des termes étrangers, désolé. Donc le Bouddha, bon, ça, voilà. Le Dhamma, c'est son enseignement, l'enseignement du Bouddha. Et le Sangha, c'est la communauté des bouddhistes. Généralement, c'est même plus précisément dans ce cas-là, les grands maîtres, les grands sages.
Ok. Et du coup, donc une fois que tu as vraiment pu creuser le truc, intellectuellement, on va dire, tu étais convaincu, comment tu as mis en place ta pratique au quotidien?
Très bonne question, parce que finalement, c'est ça qui est important. Comment j'ai commencé à mettre en place? Eh ben, je pense que la base vraiment de la pratique bouddhiste, c'est les 5 préceptes. Les gens, des fois, ils se rendent pas très bien compte de à quel point ils sont importants et ils sont pas si faciles à mettre en place parce que ça ressemble pas un petit peu aux 10 commandements. Enfin, en fait, je connais pas très bien les 10 commandements, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même différent. Le premier précepte, il consiste à ne pas tuer, mais plus précisément, ne pas faire de mal et ne pas tuer aucun être sensible, donc ça inclut les animaux. Tuer un moustique, écraser une fourmi, intentionnellement, ça rentre dedans. Il y a ne pas voler, ne pas dérober. Un haut niveau de pratique, ça inclut aussi ne pas prendre ce qui nous a pas été donné. Donc par exemple, prendre le bus sans avoir payé, c'est du vol. Prendre quelque chose chez quelqu'un qu'on ne t'a pas clairement dit, oui, tu peux le prendre, c'est du vol. C'est pas que prendre un truc dans un magasin. Il y a aussi ne pas avoir de méconduite sexuelle. Généralement, là, il y a quand même un assez fort consensus sur le fait que ça inclut des choses assez typiques comme le viol, la pédophilie, l'inceste. L'homosexualité est généralement pas inclus dedans. Très rarement les gens qui...
Et certains courants qui disent que oui, d'autres
Non,
non, ou
c'est
non?
vraiment plus des interprétations encore plus petit niveau que ça. Généralement, c'est plus vraiment un maître qui va dire que oh, finalement, ça non.
Est-ce que ça a joué dans le fait que le bouddhiste est touché aussi par rapport aux autres religions abrahamiques ou pas?
Peut-être, ouais, parce qu'effectivement, moi je suis gay. Et rentrer dans une religion où dès le début on te dit t'es un gros pécheur, bah forcément c'est pas un très bon accueil. Alors que là, quand on te dit bah non, l'homosexualité c'est pas spécialement un problème, bah ça change déjà beaucoup de choses. Et par la suite, j'ai creusé le sujet de l'homosexualité dans le bouddhisme, en tout cas dans l'interprétation du Theravada. Et ce qu'il en sort, de ce que j'ai compris en tout cas, ce qu'il en sort, c'est que finalement, quand on lit les textes, quand on lit ce qu'a dit le Bouddha, très clairement, en fait, il y a un idéal de célibat et d'avoir aucune relation sexuelle, en fait. Aucune même activité sexuelle, même seule. Donc, en fait, voilà, l'idéal, il est là. Qu'on soit ensuite homo, bi ou hétéro, c'est pas très important. Voilà. Après, dans les autres
préceptes,
merci, il y a le fait de ne pas consommer de produits intoxicants qui engendrent un manque de conscience et de présence. Donc, ça inclut les drogues dures, l'alcool. Souvent, on se demande, est-ce qu'il n'y a que les musulmans qui ne boivent pas d'alcool? Non, il y a aussi les bouddhistes.
Pour tout ce qui est alimentaire et alcool, est-ce que c'était des choses que, de toute façon, tu mangeais peu de viande et tu buvais peu d'alcool, ou ça a été un gros changement dans ta vie?
Alors, ça dépend des préceptes, mais effectivement, il y a certaines choses qui me parlaient déjà beaucoup. Avant d'être bouddhiste, j'étais déjà végétarien. Alors attention, tous les bouddhistes ne sont pas végétariens, c'est pas une obligation. Mais effectivement, beaucoup de bouddhistes sont végétariens parce que quand on est dans la logique de pas vouloir faire de mal à autrui, bah très souvent ça en découle que bah on est végétarien. Mais c'est pas une obligation du tout. Pour ce qui est des changements alimentaires, l'alcool, oui, un petit peu, je buvais encore un peu d'alcool. Oui, je buvais de l'alcool à ce moment-là, donc j'ai arrêté, effectivement. Je fumais à cette époque et j'ai arrêté de fumer. Mais par contre, oui, le fait de pas voler, de pas tuer, ça avait des conséquences concrètes. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça a vraiment des conséquences concrètes parce que quand moi je creuse le sujet chez des amis ou des gens qui veulent bien en parler, je me rends compte qu'en fait, mais voler et tuer, c'est vraiment hyper banal. C'est vraiment pas du tout si bizarre que ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui volent, mais ils s'en rendent même pas compte en fait. Parce que pour eux, ça fait pas vraiment partie de la définition du vol. Pour eux, voler, c'est vraiment, comme je te disais, faire un cambriolage ou voler vraiment un produit dans un magasin. Mais par contre, ils vont se dire, ah bah non, si je fais ça, c'est pas vraiment du vol. Enfin, ils s'inventent des excuses comme ça. C'est vraiment très commun.
Et pour le fait de tuer, alors, pourquoi tu trouves ça aussi si commun
Ah ouais, je trouve ça vraiment très commun, ça me choque souvent, du coup, maintenant. Ouais, je me rappelle une fois, c'était il y a assez longtemps, j'étais célibataire. J'ai rencontré un garçon qui m'intéressait pour la première... Enfin, non, c'était déjà rencontré plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'on mangeait ensemble. On était à un petit restaurant. Et il y avait aussi des amis en commun avec nous. Et il y a un moustique qui passe. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le tue. Ou il essaie de le tuer. Je sais pas s'il avait réussi à le tuer, peu importe. Enfin, en tout cas, ça m'avait vraiment beaucoup choqué. Parce que je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment du genre de choses que moi, je vois pas. Parce que je le fais pas. Et on considère que en fait les humains peuvent renaître en animaux et les animaux peuvent renaître aussi en okay. Humains. Donc il y a vraiment un continuum. Donc voilà, tuer un insecte, c'est pas bien. Non plus, ça engendre un mauvais karma. Tout ce qui est récitation, hommage, ça c'est aussi une partie de la pratique. Il y en a qui le font qu'une fois de temps en temps dans la semaine. Il y en a qui le font absolument tous les jours. Il existe un certain nombre de textes qu'on peut réciter où on fait des hommages au Bouddha, des hommages à la communauté des disciples du Bouddha, à son enseignement. On récite des parties de son enseignement, des fois tout bêtement aussi, c'est vraiment des parties des textes qu'on va tout simplement lire.
Et toi, qu'est-ce que tu pratiques au quotidien?
Alors au quotidien, pour être tout à fait honnête, en fait, il y a beaucoup de variations, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi et je pratique beaucoup. Il y a les préceptes que je vais accentuer, où on peut toujours creuser les préceptes, hein. C'est jamais si simple que ça. Il y a la méditation qui compte. Alors la méditation, très important, préjugé. La méditation, c'est pas toujours être assis dans une position bien spécifique, avec les yeux plus ou moins fermés, non. Il existe aussi de la méditation marchée, qui est formelle, et il existe aussi des formes de méditation, on pourrait dire informelle, qui consiste à se connecter au présent, à se connecter à ce qu'on ressent, à ce qui nous arrive au moment présent, en fait. Et à comment est-ce qu'on traite les données qui arrivent à nous. On peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en étant dans le bus, enfin en n'importe quoi, même au travail, voilà. Et puis pour ce qui est communautaire, très peu. Moi du coup, comme je te disais, je pratique beaucoup seul parce que y a pas vraiment de communauté près de chez moi. Après justement, le confinement a eu quelques points positifs à ce niveau-là, parce que du coup, comme les gens pouvaient plus se réunir, du coup ils faisaient beaucoup d'événements en ligne. Notamment, il y a un grand monastère très connu dans le Theravada qui est en Angleterre, Amavarati. Et ce monastère, du coup, il faisait beaucoup de choses en ligne à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont continuer. Et ça a été super pratique pour moi parce que j'ai pu vraiment voir comment ça se passait, alors que j'avais pas souvent l'occasion de le faire. On avait aussi la possibilité de poser ses questions, qui allaient être ensuite répondues par le maître. Enfin, le genre de choses que je pouvais pas faire avant. Ça, c'était un point positif, ouais.
Ta conversion au bouddhisme, c'est quelque chose dont tu as parlé à ta famille, ou juste progressivement, ils ont vu que tu t'y intéressais, ou il y a eu une annonce officielle?
Ah, c'était dur.
C'est,
c'est une bonne question, ça, c'est vrai. J'ai mis du temps à leur dire que ça m'intéressait, enfin, pas que ça m'intéressait, mais que voilà, j'étais maintenant bouddhiste, que je le pratiquais, que c'était vraiment très important pour moi et que ça avait des conséquences sur ma vie de tous les jours, sur mes pratiques de tous les jours, sur mes projets futurs, sur ce que je mangeais, sur ce que je buvais, sur en fait sur toute ma personnalité, sur toutes mes interactions avec les gens, sur les métiers que j'envisageais de faire, sur les études que j'envisageais de faire. Du coup, ça fait vraiment partie de moi sur tous les plans maintenant. Et il fallait bien que j'en parle. Sauf que vraiment c'était, enfin je sais pas, comme je t'ai dit, on parlait pas trop de religion à la maison, c'était pas un sujet voilà qui était facile à aborder. Je savais pas trop comment le dire, ça a été vraiment un coming out. Voilà, c'était vraiment pareil pour moi, enfin un petit peu moins douloureux quand même, mais c'était vraiment comme un coming out. La même genre de sensation. Comment je vais dire, se préparer un peu, en parler à vos amis avant, c'était vraiment un peu le même genre de truc. J'ai fini par leur dire du coup que bah j'étais bouddhiste et que c'était important pour moi. Ça s'est bien passé, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de drame, voilà, c'est très ouf, mais de l'incompréhension. D'abord des questions, genre, ah, mais ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que pour le coup, je m'étais pas préparé à ça. Ça faisait pas si longtemps que j'étais bouddhiste à ce moment-là, j'avais encore jamais eu l'occasion vraiment d'expliquer et tout. Et puis c'est super dur, expliquer une religion à quelqu'un comme ça, enfin, c'est super dur, et surtout quand c'est une religion en plus qui n'a rien à voir avec ce dont on est habitué, c'est encore plus dur. J'ai essayé de répondre comme je pouvais, elle avait des questions, c'était très bien, mais ouais, j'étais un peu maladroit, je pense, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, comme je pouvais. Je leur avais dit, ils le savaient, ils en avaient parlé un petit peu entre eux, donc je pense que la plupart des gens étaient au courant dans la famille, mais le truc très, comme moi j'imagine, très français, c'est-à-dire que ouais, ok, on sait, ouais, bah ok, les musulmans, bah on laisse vivre sa vie de son côté, on s'intéresse pas à lui, on pose pas de questions, et voilà, le truc tabou, quoi. Donc on n'en parlait pas, et on faisait comme si de rien n'était. Et du coup, bah forcément, c'était vraiment une situation qui était super nulle pour moi, parce que bah on peut pas faire comme s'il y avait rien. Comme je disais, c'est un truc hyper important pour moi, ça fait partie de ma vie vraiment de tous les jours. Il y a des certains jours où il y a des pratiques plus intensives, on appelle ça les jours d'Uposatha, les jours d'observance lunaire, c'est à peu près une fois par semaine, où on pratique plus intensément. Et du coup, bah des jours où, par exemple, on mange plus après le déjeuner, qui doit d'ailleurs pas être trop tard dans l'idéal, ça posait problème, tu peux pas faire comme si de rien n'était, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Quand ta maman t'a préparé un super gâteau pour le soir et que on s'attend à ce que tu manges avec tout le monde et que tu te dis bah non, je mange pas, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Ces jours-là, on a le droit, enfin, on renonce à tout divertissement et du coup, bah c'est pas anodin, c'est énorme comme renoncement. C'est une journée où tu fais pas de jeux de société, une journée où tu regardes pas la télé, tu écoutes pas la musique, tu vas pas voir de spectacle, c'est pas du tout anodin, c'est énorme. Tu peux pas faire comme si de rien n'était. Donc c'était vraiment très compliqué. Et finalement, je sais plus comment c'est revenu, mais il y a peut-être un an, on en a reparlé, et ça a été l'occasion justement ouais, d'en reparler de manière plus apaisée, j'ai eu le temps un peu plus de me préparer, d'expliquer que c'était important pour moi, et pourquoi c'était important pour moi, et tout ça. Et depuis, c'est mieux quand même. Mais pas si facile, ouais. Pas si facile.
Et avec tes amis?
Avec mes amis, je le cache pas du tout que je suis bouddhiste, je le dis parce que bah, c'est vraiment important pour moi, et pour moi, si un de mes amis ne sait pas que je suis bouddhiste, bah... c'est trop bizarre, enfin, il passe à côté d'une partie essentielle de moi, enfin, ça serait n'importe quoi. Il peut pas être mon ami si c'est pas que je suis bouddhiste. Donc, du coup, je le dis, bien sûr. Et après, ça dépend un peu des amis. Il y en a pour qui ils comprennent pas trop. Donc, du coup, ça fait un peu comme ma famille au début. Ok, je le sais, je mets ça de côté, mais ils ont du mal à le relier avec autre chose. Mais généralement, quand c'est des vrais amis avec que je vois souvent, bah, ils finissent par comprendre qu'est-ce que ça a comme incidence, pourquoi c'est important pour moi et tout ça. Puis il y a certains amis, oui, voilà, qui posent plein de questions et à qui on a des débats des fois super bien, comme à coexister en fait. C'est...
Pourquoi alors le bouddhisme détermine des choix de métier, d'études, de tes projets futurs?
Eh bien parce que ça fait partie de ce qu'a enseigné le Bouddha, c'est-à-dire que son tout premier enseignement c'était les quatre nobles vérités. Donc la première c'est celle de la souffrance, comme quoi il faut bien se rendre compte et apprendre à voir la souffrance, parce qu'en fait beaucoup de gens ne sont même pas... capable, et même moi, j'étais pas capable au début de vraiment voir où était la souffrance. Alors évidemment, quand elle est extrême, elle est facile à voir. Quand on se casse une jambe, la souffrance, elle est très claire. Ou quand on a une dépression, voilà, c'est très clair. Mais en fait, la souffrance est bien plus, enfin, dans le concept bouddhiste, hein, le terme c'est dukkha. Dukkha, c'est bien plus large que juste la douleur et la souffrance émotionnelle énorme. Ça inclut, en fait, je dirais, toute forme d'insatisfaction. Et donc ça inclut la moindre petite colère, la moindre petite jalousie, le moindre petit moment où on n'est pas simplement dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui nous arrive, et voilà, de dire bah oui, j'ai mal, bah oui, bah c'est comme ça, et voilà, je prends cette donnée en compte et je vais pas me monter le bourrichon avec. Et bah tout ce qui est en dehors de cette acceptation du réel et de ce qui nous arrive, souvent ça tombe dans Dukkha, dans la souffrance en fait. Souvent ma mère, je me rappelle, me disait ça, mais oh non mais Nathan, quand même, il y a du bonheur aussi, il y a des choses super cool dans la vie, enfin, avoir des enfants, avoir des amis, c'est quand même des choses magnifiques, ou même des choses, des petits plaisirs de la vie tout simples, comme aller au restaurant avec les gens qu'on aime, manger des bons petits plats. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça. Je dirais qu'il y a deux choses. Il faut savoir faire la différence entre le bonheur et le plaisir. Au début, c'était pas simple pour moi, mais maintenant, c'est une évidence. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est deux choses, deux concepts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont même presque incompatibles, en fait, pour moi. Le plaisir, c'est vraiment quelque chose de souvent assez facile, qui consiste, ouais, je dirais, c'est une sorte de jouissance où on jouit du fait de manger une bonne glace, ou du fait d'être avec ses amis, on s'éclate, on se fait des blagues, on rigole. Voilà, ça, c'est du plaisir. C'est momentané, c'est instable. Justement, le Bouddha nous enseigne à quitter la souffrance, à aller plus loin de ça. Le nirvana, en fait, c'est la cessation de la souffrance. Comment cesser de souffrir? Et donc, ça passe pas par les plaisirs. Arrêter de souffrir, ça passe pas par les petits plaisirs ou même les grands plaisirs. Même avoir des enfants, être amoureux, finalement, c'est plus ou moins des formes de plaisir aussi. Et plus le temps passe, plus je comprends ce que ça veut dire, parce que au début, quand j'ai lu ça, moi aussi, que même l'amour qu'on a pour ses enfants ou l'amour qu'on a pour ses parents, finalement, ça finit par engendrer de la souffrance. J'avais du mal à le croire. Je me disais, bah quand même, l'amour, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Et finalement, plus le temps passe, plus je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. En fait, c'est plutôt l'attachement aux relations et aux plaisirs qui vont engendrer de la souffrance. Je le vois bien autour de moi, et même moi, ça peut m'arriver aussi quand même. Hein, je n'ai pas atteint le nirvana encore. Hein, mais je le vois bien autour de moi que quand c'est plus facile quand c'est extérieur à soi. Je vois bien que quand je vois des gens qui sont très amis ou qui sont des relations mère-fille, ce genre de choses, bah, je vois bien que quand ça va pas, ça engendre énormément de souffrance du coup. Les problèmes de famille, ça engendre énormément de souffrance. Pourquoi? Parce que justement, il y a des liens très forts entre ces gens et il y a beaucoup d'attachement, beaucoup de choses qu'on attend d'eux et qu'on n'attend pas d'eux aussi à l'inverse. Et du coup, quand ça va pas, bah, comme on veut, bah, ça crée de la souffrance. Et ça en crée beaucoup d'ailleurs. Quand on a ses parents qui meurent, ça crée souvent aussi beaucoup de souffrance. Et quand on a ses enfants qui meurent parce que c'est pas du tout si rare, bah, ça crée aussi beaucoup de souffrance, etc.
Et dans l'impact que ça a dans tes choix de vie, de projet
Et bah du coup, bien sûr que ça a des incidences. La dernière des quatre nobles vérités, c'est justement le chemin, l'octuple sentier, le chemin qui permet de fuir la souffrance, enfin d'éteindre la souffrance. Et cet octuple sentier, donc il y a 8 parties, 8 choses à mettre en application, et une d'entre elles, c'est ne pas avoir un moyen d'existence injuste. Donc, moyen d'existence, pour les laïcs, c'est souvent en fait un métier, mais ça peut être aussi des activités autres, mais c'est souvent, on pense souvent à des métiers. Et donc, il y a un assez grand nombre de métiers qui sont incompatibles avec l'enseignement du Bouddha. C'est pas un interdit, tu vois, c'est juste que, bah, si vous voulez cesser de souffrir, c'est pas vers ce genre de choses qu'il faut aller, quoi. Tous les métiers qui vont aller à l'encontre des 5 premiers préceptes, donc quand on va devoir tuer, quand on va devoir, voilà, ce genre de choses, ça va pas aller. Ça inclut, en fait, beaucoup de métiers. Dans les 5 préceptes, il y a aussi le mensonge et tout ce qui est la parole injuste. C'est aussi la médisance. En fait, l'idée, c'est d'être maître de sa parole et de faire des choses bien avec sa parole. Je veux dire, les paroles, c'est comme les actes, on peut faire des choses magnifiques avec, mais on peut aussi faire des choses désastreuses et qui font beaucoup souffrir les gens. Donc l'idée, c'est d'être maître de ce qu'on dit, en fait. Et donc tous les métiers qui vont aller à l'encontre des 5 premiers préceptes sont généralement considérés du coup comme des métiers injustes. Il y a aussi ce qui est lié au divertissement et plus précisément, je sais pas si c'est vraiment le divertissement en entier, mais c'est plutôt les métiers où il y a du comique. Où vraiment le but c'est juste de faire rigoler les gens, de les divertir purement et bêtement. C'est un peu méchant ce que je dis, j'étais un peu directement, mais c'est comme ça que moi je le ressens et je l'interprète. Ce genre de vraiment de divertissement purement à la rigolade, c'est considéré comme un moyen d'existence injuste. Et ah oui, et aussi en dehors du fait de tuer des animaux et des êtres humains, tout ce qui est aussi commerce de la viande est inclus.
Ouais. Par exemple, si on propose d'aller au rayon boucherie, par exemple,
Voilà, ça serait très volontiers. J'ai pas osé en parler lors de mon entretien et ni même après, parce que maintenant, je suis en CDI et j'ai fini ma période d'essai. Mais c'est vrai que j'ai pas trop osé en parler, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça, j'aurais peut-être dû, je sais pas. En fait, j'y réfléchis encore à comment je vais gérer ça. Parce que dans mon contrat, c'est effectivement dit que en cas de besoin, parce que moi je travaille aux vêtements, mais en cas de besoin, je peux être mis autre part. Et j'ai aucun problème avec ça, il n'y a aucun souci. Mais sauf, effectivement, ce que je considère comme étant des moyens d'existence injustes, notamment tout ce qui est lié à la viande. Ou ce qui, apparemment, ça arrive aussi à les périodes de Noël où on fait goûter des huîtres ou des choses comme ça. Donc là, ça serait vraiment le summum de l'horreur pour moi, parce qu'on pourrait vraiment tuer l'animal. Donc ça, c'est vraiment hors de question. Et je sais pas exactement comment je vais gérer ça. Ça serait problématique pour moi. Ouais. Et puis du coup, forcément, comme ça a des incidences, enfin, je veux dire, mes valeurs, mes convictions, des incidences sur les métiers que je peux faire ou pas. Ça a aussi des incidences sur les études, pour y arriver, forcément. J'ai voulu être orthophoniste. Je trouvais que c'était un moyen d'existence particulièrement juste pour le coup. En étant, par exemple, dans le médical ou le paramédical, ou dans l'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui me parlait énormément, qui me parle d'ailleurs toujours beaucoup.
Le TGV 8488 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Sur le chemin du retour, je réécoute notre conversation et mille autres questions et réactions me viennent en tête. Merci Nathan d'avoir accepté de témoigner pour de bonne foi. Chers auditeurs et auditrices, si cet épisode vous a plu, si comme moi il vous a touché et questionné, parlez-en autour de vous et écrivez-moi sur Facebook, Instagram ou sur debonnefoipodcast@gmail.com. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode bonus pour le premier anniversaire du podcast. Alors, pour être informé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à De Bonne Foi. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en le notant 5 étoiles sur votre application. D'ailleurs, si vous êtes passionné de podcast, je vous invite à utiliser Iku, l'application communautaire où l'on peut commenter et partager ses podcasts préférés. À bientôt !